accent d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Ne veut pas oublier, la barbarie du camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp de concentration, symbole de la Shoah. 1 100 000 personnes y ont été tuées durant la Seconde Guerre mondiale, dont 900 000 juifs. Ne pas oublier, c'est le sens des commémorations qui ont eu lieu hier en Israël, lundi en Pologne. Bonjour Ingrid Tervat.
Bonjour Léa Lisa.
75 ans après, ces commémorations de la libération d'Auschwitz ont donné lieu à une bataille de la mémoire. Vous nous en parlez dans le courrier international de cette semaine, avec cet affrontement diplomatique entre la Russie et la Pologne, dont fait écho le magazine allemand Der Spiegel.
Oui, Léa Lisa, à l'occasion de l'anniversaire de la libération d'Auschwitz, le 23 janvier, des commémorations ont été organisées au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Des représentants des 4 pays vainqueurs de la guerre, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Russie, y ont été associés, ainsi que des officiels allemands et israéliens, bien sûr. Mais il y avait un grand absent, c'est Andrzej Duda, le président polonais. Alors pour Der Spiegel, l'explication est simple. En fait, les rôles sont répartis de façon vraiment inéquitable. Le magazine allemand écrit, je le cite, « Les Américains s'expriment, les Français se souviennent de la guerre, les Allemands reconnaissent leur culpabilité, même un Russe monte à la tribune. Seul lui, le Polonais, doit garder le silence. » Mais alors, pourquoi mettre les Polonais à l'écart? Eh bien, cela vient d'une volonté de Vladimir Poutine de faire passer les Polonais, de façon générale, pour des antisémites et des complices des nazis. Une façon, sans doute, de faire oublier le pacte de non-agression germano-soviétique de 1939 qui a permis à Hitler d'envahir la Pologne. Évidemment, Varsovie ne veut pas se prêter à ce petit jeu. Et Duda a donc décidé de ne pas se rendre à Jérusalem. Alors la victime dans cette affaire, c'est la mémoire. La mémoire des 6 millions de victimes de la Shoah, mais aussi celle des 6900 Polonais honorés à Yad Vashem en tant que juste parmi les nations. Ces 6900 personnes qui ont aidé des Juifs forment un contingent plus élevé que toutes les autres nationalités. Et ça, à Varsovie, on ne veut pas l'oublier.
Alors, autre sujet majeur, le site de Courrier International publie une enquête cette semaine sur un réseau criminel ukrainien qui envoie des migrants en voilier en Italie. De qui s'agit-il, Ingrid?
C'est Il Sole 24 Ore qui a mené l'enquête. Ce quotidien de Milan raconte qu'un réseau mafieux a mis sur pied une nouvelle filière de trafic humain. Il s'agit pour les trafiquants de faire passer des migrants, souvent originaires de Syrie, d'Afghanistan et du Pakistan, de la Turquie vers l'Italie, d'où ils espèrent ensuite rejoindre le nord de l'Europe.
Alors la nouveauté, c'est que visiblement les passeurs utilisent des voiliers, des yachts de luxe, parfois volés, pour transporter les migrants. Pourquoi?
Alors, selon Il Sole, parce que pour ceux qui peuvent se permettre de débourser jusqu'à 6 000 $, la traversée en voilier est l'une des techniques les moins risquées. Le journal italien explique que ce réseau s'est formé sur une étrange alliance entre Ukrainiens, Russes et Kurdes irakiens qui exploitent ce créneau lucratif depuis au moins 2014. Et chaque voyage peut rapporter près de 250 000 euros aux mafieux. Oui, sauf que depuis 2018, pas moins de 108 voiliers ont été interceptés. Et depuis 2014, 438 passeurs ont été arrêtés. L'un d'entre eux purge en ce moment une peine de 233 ans de prison. Et pourtant, les enquêtes n'aboutissent que très rarement. D'abord parce que les différents pays concernés ont du mal à collaborer, mais aussi parce qu'il faudrait travailler avec la Turquie, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Et donc, pendant qu'on en parle, pendant que les journalistes enquêtent, le trafic continue. Et sur la mer, les voiliers du désespoir continuent de naviguer.
Alors, autre pays, autre phénomène surprenant, même si cela n'a rien de tragique. Cette fois, au Royaume-Uni, où le Brexit est prévu pour le 31 janvier, rien ne semble mettre les gens d'accord. Rien, sauf peut-être les pubs.
Oui, c'est vrai que la culture du pub est profondément ancrée dans la vie et l'imaginaire britannique. Mais il se passe quelque chose d'assez surprenant en Angleterre, nous apprend le magazine Prospect à Londres. Les établissements de la chaîne J.D. Wetherspoon, qui possède 875 pubs au total, est en train de faire une espèce de quasi-unanimité. Alors c'est surprenant, parce que son charismatique patron, Tim Martin, fait une campagne ouverte, y compris à l'intérieur même des établissements, pour le Brexit.
Ces pubs ne devraient donc être fréquentés que par des partisans de la sortie de l'Union européenne.
Oui, ça pourrait être logique. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout ce qui se passe. On trouve des ouvriers, des jeunes branchés, des touristes, des cadres sup, des gens de gauche, des gens de droite, des ultra-conservateurs, des pro-Brexit et des anti-Brexit. Tout un petit monde, attiré par une ambiance qui se veut authentique avec force boiserie et vieilles photos, et surtout par des prix défiant toute concurrence. Vous pensiez que de l'autre côté de la Manche, la réconciliation et la paix sociale passaient par une bonne tasse de thé ? Eh bien, peut-être que ça passe plutôt par une bonne pinte de bière. Et pour une fois, tant pis pour le Dry January.
Merci Ingrid Tervat. Ces articles et beaucoup d'autres sont à retrouver dans Courrier International cette semaine. À bientôt.
À bientôt.
Justement, dans les Hauts-de-France, on l'appelle l'or liquide. La région est la plus grosse productrice de bière avec l'Alsace. Mais avec le succès grandissant de ces bières locales, les brasseurs indépendants réclament des réglementations. L'interdiction notamment de dire qu'une bière est fabriquée dans une ville, alors qu'en réalité elle est produite ailleurs. Depuis décembre, c'est chose faite. Des députés ont voté un amendement pour rendre plus transparent l'origine de ces bières locales. Et pour les brasseurs du Nord, c'est une bonne nouvelle, Lise Verbeek.
L'amendement oblige les producteurs à indiquer bien en évidence sur l'étiquette l'origine de la bière, donc le nom et l'adresse du producteur. Et ce pour ne pas induire en erreur le consommateur avec une communication trompeuse, pointe des députés, qui prennent pour exemple différentes brasseries qui entretiennent le flou sur l'origine des bières, comme par exemple la Rageoise, bière d'Arras, qui est en fait produite en Belgique, ou encore la Cagole, bière de Marseille, fabriquée en République tchèque. Cet étiquetage obligatoire doit donc aider le consommateur à s'y retrouver dans la jungle des bières pour savoir qui fait quoi et si elles sont ou non brassées localement. C'est une énorme victoire, s'est réjoui le syndicat national des brasseurs indépendants qui a soufflé l'idée aux députés à l'origine de l'amendement. Les bières de terroir seront maintenant véritablement issues des terroirs, ajoute le président du syndicat. Dans la région Hauts-de-France, qui compte une soixantaine de brasseries et pas moins de 350 marques de bière, on peut dire que la concurrence fait rage, l'amendement est donc le bienvenu pour les artisans brasseurs qui misent sur le local, voire sur l'ultra-local, comme ce professionnel qui a décidé de s'implanter en plein centre-ville de Roubaix. Il produit moins, mais il vend directement, comme dans le temps, dit-il, où chaque village avait sa brasserie. Pour cet autre brasseur de la baie de Somme, l'obligation de mettre l'origine de la bière sur les étiquettes nous met en valeur, dit-il, car nous faisons tout de A à Z, de la fabrication à la revente, et nous connaissons nos produits. Dans les rayons des supermarchés, ajoute-t-il, qui sont de plus en plus nombreux à vendre des bières locales, ça nous permettra de nous démarquer. Mais il faudrait, selon lui, aller encore plus loin et inscrire sur l'étiquette « bière de revente », car ils sont nombreux les artisans nordistes à pointer du doigt les revendeurs, ceux qui se contentent de vendre la bière et non de la brasser. Des revendeurs business qui n'ont, dit-il, jamais mis les pieds dans une brasserie et qui ne connaissent rien à leur bière, mais qui jouent sur la renommée d'un endroit pour attirer l'acheteur.
Noch was zu unternehmen, lass uns in die nächste Kneipe gehen. Wir tranken viel und tanzen auf den Tischen, versuchen hier und da eine Maus zu fischen. Doch plötzlich war ich müde.
En Allemagne, la bière est aussi sacrée que le vin en France et on ne badine pas avec les traditions. Car de l'autre côté du Rhin, la production de cette boisson est régie par des règles très anciennes. Mais si la production industrielle est toujours la plus populaire, de plus en plus de petits brasseurs viennent bousculer les habitudes des Allemands. Reportage dans une microbrasserie de Berlin avec notre correspondante Déborah Berlioz.
Ce soir, Dirk visite la brasserie artisanale de Berliner Berg et lit les guides dans les locaux.
Tout est fait à la main ici.
Toutes les bouteilles sont remplies ici ?
Oui, remplies, fermées, étiquetées. En ce moment, je colle les étiquettes de notre blanche aux fruits.
Cette microbrasserie a été lancée il y a 5 ans. Ses fondateurs se sont rencontrés dans une start-up berlinoise. Michel travaillait avec eux à ce moment-là et la bière était l'un de leurs sujets de discussion favoris.
J'ai vécu un an à l'étranger et les 4 fondateurs de la brasserie avec qui je travaille maintenant ont également vécu ailleurs qu'en Allemagne. Nous y avons découvert une culture de la bière complètement différente. Il y a 5 ou 10 ans ici, dans les supermarchés, au bar ou au restaurant, le choix de bière était limité. On avait de la Pils, peut-être plusieurs sortes. Ou si on avait de la chance, on avait de la Helles, une bière blonde claire.
À l'époque, les variétés de bière étaient donc limitées de ce côté du Rhin, mais selon dire que ce n'était pas le seul problème.
Avec la commercialisation grandissante de la bière en Allemagne, de grandes entreprises ont racheté les petites brasseries. Au final, toutes les bières avaient le même goût. Il n'y avait plus de différence régionale.
Mais depuis quelques années, la révolution brassicole est en marche. Commencé aux États-Unis, le mouvement craft beer, ou bière artisanale, est enfin arrivé en Allemagne. Si la consommation de bière par habitant baisse chaque année, les brasseries artisanales fleurissent dans tout le pays. En 2017, on dénombrait déjà 266 marques de bière artisanale, dont Berliner Berg. La petite entreprise brasse une grande variété de bières, allant de la blonde classique à la blanche aux fruits, en passant par une sorte au goût fumé et par la pale ale américaine. Mais les débuts ne furent pas forcément faciles. Habitués à leur bière traditionnelle, les Allemands n'étaient pas tous ouverts à cette nouvelle diversité, sans compter que les bières artisanales coûtent bien plus cher que leurs cousines industrielles. Toutefois, ce n'est rien d'insurmontable, selon Michel.
Pendant longtemps, il semblait évident en Allemagne que la bière ne coûte rien. Cela faisait partie des aliments de base, en quelque sorte. Cependant, de plus en plus de gens prennent conscience que des bons produits coûtent plus cher. Cela a commencé avec la nourriture bio et arrive doucement dans le secteur de la bière.
Holger Eichele travaille pour l'Association des brasseurs allemands. Selon lui, le prix de ces nouvelles bières se justifie, car cette boisson devient un vrai produit gastronomique. En effet, de plus en plus de restaurants disposent d'une carte de bière, et on compte 2000 sommeliers de la bière en Allemagne et en Autriche. Une nouvelle formation de sommeliers va d'ailleurs commencer en janvier à Berlin.
Les bières artisanales ont bien plus d'arômes qu'un vin moyen. Si vous prenez cette bière, par exemple, elle a des arômes de citron, de mangue, de litchi et même un peu de cerise.
Et tout cela en respectant la règle de pureté allemande. Inventée il y a plus de 500 ans, cette règle stipule que la bière ne doit être constituée que de 4 ingrédients, de l'orge, du houblon, de l'eau et des levures. Tout ce qui ne répond pas à ce critère ne peut s'appeler bière, à moins d'obtenir une dérogation. Si cela peut paraître limité, il faut savoir qu'il existe environ 200 sortes de houblons et 250 variétés d'orge. De quoi varier les combinaisons. Holger ne voit donc aucune raison d'abolir cette ancienne tradition.
Si vous brassez de la bière dans l'Union européenne, vous avez le droit d'utiliser une très longue liste d'additifs et d'enzymes artificiels. La règle de pureté interdit tous les additifs artificiels. Or, les consommateurs veulent des produits naturels aujourd'hui. Donc je pense que la règle de pureté est plus actuelle que jamais.
Alors certes, on commence à trouver des bières à la citrouille, à la coriandre ou encore aux fruits, mais selon Holger, 98% des bières artisanales allemandes respectent la règle de pureté. Et leur succès ne cesse de grandir, surtout dans la capitale. On compte aujourd'hui quelque 70 brasseries à Berlin, soit deux fois plus qu'en 2011. Malgré tout, les bières artisanales restent un produit de niche. Elles représentent encore moins d'1% des 100 millions d'hectolitres de bières brassées chaque année en Allemagne.
Just a minute. The leader of the band wants to show you how well they can play. Let's listen.
C'est l'heure de retrouver Vincent Théval pour notre chronique musicale. Bonjour.
Bonjour Léalisa, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui d'une collaboration inédite entre un artiste espagnol et portugais.
Eh oui, guidé par l'envie de donner en 2020 une version du fado à la fois moderne et fidèle au canon. La chanteuse portugaise, c'est Lina. Et l'espagnol, c'est le producteur et multi-instrumentiste Raoul Refri. La première connaît ce répertoire sur le bout des doigts. Sa famille chante le fado depuis deux générations. Et Lina interprète régulièrement sur scène à Lisbonne les chansons popularisées autrefois par Amalia Rodriguez. Quant à Raoul Refri, on l'a déjà croisé à plusieurs reprises dans Accent d'Europe, seul ou aux côtés de la chanteuse espagnole Rosalia. Le disque qu'il publie aujourd'hui avec Lina est le fruit d'une collaboration audacieuse où le duo a pris soin de garder intactes les chansons, leurs paroles et leurs mélodies, mais de renouveler leurs orchestrations, pas d'instruments traditionnels donc, mais des claviers essentiellement. Piano, harmonium, Rhodes ou Mini Moog donnent des teintes bleutées à ce beau disque.
Au passar pelo ribeiro, onde às vezes fito mal da corpo inteiro.
C'était Lina et Raoul Refri sur RFI. Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Pour nous retrouver, nous écouter, rendez-vous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast. Bon week-end, à lundi.